Daniel Côté, le maire de Gaspé, est avec nous. On va parler de deux éléments. D'abord, évidemment, la question du prochain pacte fiscal qui a été abordée beaucoup lors du congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec, dont le maire, évidemment, est vice-président maintenant, d'ailleurs nouvellement élu. Et on parlera aussi de cette rencontre avec François Legault, le premier ministre, par rapport au chemin de fer gaspésien. Daniel Côté, bonjour.
Oui, bonjour, Richard.
C'est bien vice-président?
Oui, premier vice-président.
Premier vice-président, voilà, parce que, bon, je me semblais qu'il...
J'étais deuxième vice-président jusqu'à mercredi dernier.
Alors, ça vous donne plus de manœuvres, ça, être premier vice-président, des rencontres plus importantes? Quel est l'avantage?
Ben, en fait, l'avantage, c'est que Gaspé est de mieux en mieux positionné, de plus en plus reconnu dans le milieu municipal, mais aussi auprès des gouvernements. Je vous dirais que les gens commencent à connaître de plus en plus le visage du maire de Gaspé, donc c'est bon signe. C'est bon signe dans les relations gouvernementales principalement, mais on a la tribune plus facilement aussi. Donc la vitrine qui est offerte à la ville est de plus en plus grande. En termes de responsabilité, ça implique davantage d'implication dans les instances de l'Union de l'Union des municipalités du Québec, notamment le conseil d'administration, le conseil exécutif, etc. Et de plus en plus, le président va commencer à me déléguer de plus en plus de dossiers également, des dossiers qui ont toujours rapport aussi avec les dossiers municipaux que l'on vit. Donc, il n'y a pas un gros clash entre les dossiers travaillés par l'UMQ et les dossiers travaillés par la ville de Gaspé. On est à peu près toujours dans le même type de dossier. Ce que ça donne, en fait, c'est un accès plus important, je dirais, plus privilégié à différents contacts. Puis, en même temps, on travaille sur les mêmes dossiers. Donc, on fait une pierre deux coups, si on veut.
Une petite question piège que les gens peut-être pourraient vous poser. Est-ce que ça va vous enlever du temps pour gérer la municipalité et les dossiers de la ville?
Je vous dirais qu'en fait, ça fait quand même un certain temps que je m'implique de plus en plus activement au sein de l'UMQ. J'ai la chance d'avoir une équipe municipale qui est bien rodée, qui est vaillante et dévouée. Même chose du côté du conseil municipal. C'est un conseil municipal expérimenté. Plus ça va, en fait, dans le mandat actuel, je pense pas que les gens ont remarqué grand écart entre ce qu'ils ont vu en début de premier mandat et jusqu'à récemment. En fait, je délègue beaucoup vers les conseillers municipaux pour je voudrais les dossiers particuliers ou les dossiers de quartier, les dossiers de secteur, les dossiers d'individus sont davantage délégués vers les conseillers municipaux, comme ça se fait dans plein de villes d'ailleurs. Ici, c'est certain qu'on était habitué que le maire était partout et il s'occupait de tous les dossiers, sauf qu'on a des conseillers municipaux qui sont là aussi. Et il faut leur laisser de la place aussi, donc c'est une façon de leur laisser de la place. Puis d'un autre côté, au fur et à mesure que j'ai gravi certains échelons dans l'Union des municipalités du Québec, il y a certaines autres instances où je siège moins ou je ne siège plus au sein de l'UMQ. J'étais sur à peu près tous les comités inimaginables, là, donc j'étais très occupé déjà par ces comités-là, sauf que là, mes implications se précisent davantage dans l'instance centrale de l'UMQ, donc le conseil d'administration. Donc, je pense pas que les gens vont voir grande différence sur la présence ou l'absence. Ce que les gens vont sans doute remarquer, c'est qu'à la grandeur du Québec, le nom de Gaspé va sortir de plus en plus souvent. Et vous remarquez aussi qu'on va avoir des contacts assez privilégiés. Comme vous l'avez vu là, récemment, là, j'ai rencontré je ne sais plus combien de ministres dans l'espace de 3 jours parce qu'on a justement cet accès-là. Puis quand on dit rencontre, c'est pas juste une rencontre de 2 secondes dans une salle avec 2000 personnes. Là. C'est des rencontres privées qu'on peut avoir avec les ministres. Donc, on s'occupe d'enjeux nationaux qui touchent aussi la ville.
Et de temps en temps, un petit clin d'œil sur Gaspé, comme ça a été le cas pour François Legault, parce que vous l'avez rencontré. Expliquez-nous un peu parce que ça vous a permis justement de mettre certains points, éléments ou certaines choses au clair avec lui là, par rapport à la finition des travaux de réfection pour se rendre jusqu'à Gaspé pour le chemin de fer.
Exactement. Puis en fait, pour vous mettre en contexte, quand je vous dis qu'on c'est ces tribunes-là qu'on a au national nous offrent un espace privilégié, c'est qu'avant d'aller entendre le discours de M. Legault, bien c'est moi qui l'accompagnais vers la salle. J'étais assis à côté de lui à la table d'honneur, donc on a pu jaser quand même pas mal. Et en marchant vers cette table-là, M. Legault demandait comment ça va à Gaspé, comment ça va en Gaspésie. Bon, ben je répète toujours le discours positif que ça va bien, mais je dis on a peut-être un petit enjeu. Il dit ah oui, j'ai entendu parler de l'enjeu, chemin de fer, semble-t-il que vous n'êtes pas content des délais. Et donc, au début, on ne comprenait pas trop, mais disons, on a regardé ça, puis vous avez raison, les délais, 7 ans, ça n'a pas de bon sens. Lui-même comparait le projet au REM à Montréal, qui est prévu pendant 3 ans, un projet qui est énormément plus gros que le chemin de fer de la Gaspésie. Donc, lui-même ne comprenait plus la question des délais et ce qu'il me disait, il dit, regardez, inquiétez-vous pas, là, j'ai passé la commande au ministre des Transports pour qu'il presse le citron sur la machine pour trouver tous les moyens possibles de raccourcir les délais. Il s'est engagé à faire le maximum possible pour raccourcir les délais. Mm-hmm. Et il est conscient que les délais présentement sur la table n'ont juste aucun sens. Donc, premier élément, si on veut convaincre quelqu'un, c'est de le conscientiser. Ça, c'est réussi. Deuxième élément, c'est de le convaincre de faire quelque chose. Ben, il a passé la commande. Évidemment, c'est pas le premier ministre lui-même qui pourrait imposer le délai parce qu'il y a une machine en dessous de lui. Par contre, la commande est très claire auprès de la machine.
De raccourcir,
je dirais que dans l'heure que suivi mon intervention auprès du premier ministre, je sais pas si c'est un hasard, mais on a reçu un message des hauts fonctionnaires du ministère des Transports nous disant qu'ils étaient en train de réouvrir le dossier pour trouver tout moyen possible pour court-circuiter les délais. Donc, je sais pas s'il y a un lien, je ne veux pas m'approprier aucun mérite là-dedans, mais des fois les hasards font bien les choses. Hein. Je parle au premier ministre et moins d'une heure plus tard, on a un message qui rentre de la machine administrative, des hauts directeurs, des hauts fonctionnaires pour nous dire que les délais vont être raccourcis. Fait que, tant mieux. Moi, ce que je vis, c'est un résultat dans ce dossier-là. Puis on fait tout pour pousser sur la machine.
Parlons de l'Union des municipalités du Québec, mais surtout du pacte fiscal, parce que c'est ce dont qui a été discuté beaucoup durant cette rencontre-là. Il y a trois points, ou trois, quatre points, en tout cas, du moins, la question du transfert d'un point de pourcentage de la TVQ. Ça, c'est un des gros morceaux. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que le premier ministre a annoncé. Donc, du côté de François Legault, on veut bien vous donner ce point de TVQ, mais en même temps, on éliminerait les autres subventions qu'on remet aux municipalités, là.
Effectivement. En fait, lui, ce qu'il nous dit et ce qui fait pas notre affaire, c'est qu'il dit le transfert du point de TVQ va se faire, mais ça va être à coût nul. Pour moi, un coût nul, c'est un recul. Pourquoi? Parce que le coût de la vie augmente, les responsabilités municipales augmentent, donc c'est certain que si on se retrouve avec un gel des transferts gouvernementaux, bien, ça veut dire qu'on recule. On recule par rapport à ce qu'on a à assumer comme fonction. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est davantage qu'un transfert d'un point TVQ. Ça prend, faut aussi que le gouvernement paye la totalité de ses taxes municipales. Vous savez, je le répète souvent, là, la seule instance au Québec qui ne paie pas la totalité de ses taxes municipales, c'est le gouvernement du Québec. Par contre, nous autres, on déneige 100% de la rue devant les écoles, devant les hôpitaux et les édifices gouvernementaux. On leur donne 100% de l'eau potable, on ramasse 100% de leurs eaux usées. On éclaire 100% de la rue en avant de l'école puis de l'hôpital puis des édifices gouvernementaux. Mais pourquoi eux autres payent 40 ou 60 ou 80% de leur compte de leur facture de taxes municipales? C'est insensé. Donc, ça doit s'ajouter au transfert du point de TVQ. Puis il y a d'autres éléments, notamment des redevances pour les ressources naturelles. Présentement, je ne sais pas si vous savez, là, mais les ressources naturelles sont produites dans les régions du Québec, mais il y a moins de 10% des redevances sur les ressources naturelles qui sont retournées dans les régions. À un moment donné, est-ce que les régions doivent être toujours la vache à lait du Québec et pas recevoir de retour? Bien, ça fait partie de nos revendications à l'UMQ aussi, que les régions bénéficient d'une plus grande part, d'un plus grand partage des redevances sur les ressources naturelles, plutôt que d'aller fondre ça dans les coffres à Québec. On veut qu'il y ait un retour des redevances vers les régions.
Comment c'est reçu, cette partie-là?
Je vous dirais, le premier ministre, on a eu une discussion qui a été assez houleuse, pour ne pas dire acerbe, avant qu'il aille faire son discours. Parce qu'à travers tout ça, lui, il nous apporte vers complètement autre chose. Lui, il dit, ça va se faire à coup nul. Il dit, les municipalités, vous êtes capables d'absorber vos nouvelles responsabilités. Vous avez, puis ce qu'il nous dit, entre autres, il dit, vous avez juste à couper dans les salaires dans la fonction publique municipale.
Oui, parce que vos salaires sont plus élevés que... la fonction publique, c'est ce qu'il en tout cas mentionnait.
Il nous a sorti une vieille étude qui date d'il y a déjà pas mal d'années, qui démontrait que le secteur public municipal rémunérait ses employés en moyenne 30% plus cher que la fonction publique provinciale. Mais il y a deux choses là-dedans. D'un, l'étude, elle est passée date. C'était avant aussi l'adoption des mesures législatives qui ont eu cours là, vers 2015-2016, qui ont permis aux municipalités d'avoir un peu plus de latitude ou un peu plus de coups d'effrange à leurs négociations avec leurs employés syndiqués. Il y a eu aussi la question des fonds de pension, les fonds de retraite là, qui ont fait couler beaucoup d'encre, où aussi le gouvernement était intervenu pour nous donner un peu de gaz au niveau des municipalités dans nos négociations. Mais ceci étant dit, il y avait ça. Les autres éléments qu'il y a, c'est que dans la grosse statistique provinciale sur la fonction publique municipale, là, il y a entre autres la ville de Montréal. Il suffit que la ville de Montréal rémunère légèrement plus ses employés et ça vient complètement démolir les statistiques pour l'ensemble de la fonction publique, autant provinciale que municipale. Et au provincial, on l'entend toujours, les employés de la fonction publique provinciale, il y a un énorme roulement de personnel parce que la rémunération n'est pas suffisante. Bref, tu nous dis que c'est nous autres qui les payons trop, mais c'est peut-être toi qui les payes pas assez. Quelque part entre les deux, il y a une marge. Puis si j'avais à vous donner un dernier exemple plus local, du côté de Gaspé, là, je vous dirais, il y a un certain roulement depuis quelques années dans l'appareil municipal. C'est pas pour rien. Oui, les employés ont une bonne convention collective, puis c'est parfait comme ça. Par contre, plus ça va, plus on perd des employés au profit du secteur privé, parce que le secteur privé est vraiment rendu à la même hauteur de salaire que le secteur public, de plus en plus en tout cas. Donc, on perd de plus en plus d'employés vers le secteur privé. C'est signe que les salaires sont dans la moyenne maintenant, comparé à ce que ça a peut-être déjà été dans le passé. On est en pénurie de main-d'œuvre. Puis le premier ministre, dernier point là-dessus, le premier ministre dit d'un côté de la bouche, et dans le même discours, je vous dirais à deux lignes d'intervalle dans son discours, il nous disait ça prend plus d'emplois mieux rémunérés au Québec, puis de l'autre côté, ben les emplois bien rémunérés dans le secteur municipal, vous devriez couper ça de 30%. Fait quelque part, s'en prend-tu ou s'en prend pas des emplois bien rémunérés? Ben dites-nous-le, puis on va agir en conséquence. Mais on peut pas agir en conséquence parce qu'on est lié avec des conventions collectives aussi. Donc, ça a l'air facile dans le discours. C'est un discours qui est très populiste. Ça a l'air facile, mais dans la réalité, là, c'est quand on se bute à la réalité, c'est carrément une autre paire de manches. D'un, ces statistiques sont désuètes. De deux, on dirait à nos employés, hey, gang, on va vous couper de 30% la semaine prochaine. Là. Pas de même, ça marche, qu'on est lié par des conventions. Puis, anyway, les salaires sont déjà compétitifs par rapport aux autres corps de métier ou aux employeurs comparables dans le territoire. Fait que, bref, c'est un discours populiste. Point barre, fait qu'on peut pas s'entendre là-dessus. Puis c'est pas nous qui va encore une fois, c'est pas le milieu municipal qui va encore une fois se sacrifier pour que le gouvernement investisse dans d'autres champs. On s'est sacrifié en 2015 lors du dernier pacte fiscal où on a été coupé de 300 millions de dollars. Mais cette année, on veut pas être coupé de 300 millions. Cette année, on veut avoir un investissement plus marqué pour qu'on assure davantage les services de proximité aux citoyens.
Bon, là, on parle d'argent et de gros sous. Maintenant, en termes d'autonomie, il y a une demande sur la table aussi par rapport avec Ottawa. Expliquez-nous un peu à quoi ça consiste.
Ben, d'une part, il faut savoir que le Québec est la seule province où les municipalités ne peuvent pas traiter directement avec le gouvernement fédéral. Chaque fois qu'on veut avoir une subvention du fédéral ou un projet avec le fédéral, il faut toujours transiter par le gouvernement du Québec avec la bureaucratie, avec les délais que ça implique. Je peux vous donner un exemple qui est très, très, très bête, qui est limite niaiseux. On arrive, il y a 2 ou 3 ans, on reçoit, ou en fait, on applique sur une subvention du gouvernement fédéral pour avoir des entrées et des toilettes adaptées à l'hôtel de ville. J'entends, c'est bien bête, là. Bon, on a une subvention de 25 000 $ pour ça du gouvernement fédéral. Mais avant de pouvoir toucher la subvention, il a fallu attendre plusieurs mois, durant 4 et 6 mois, avant d'avoir le OK de Québec pour pouvoir encaisser un chèque de 25 000 $ pour avoir des toilettes accessibles aux personnes handicapées. On s'entend-tu que c'est ridicule? Je vous donne un autre exemple. La rétrocession du quai de Lance au Griffon, quai de Pêche et Océan Canada, qui veut être cédé à la ville de Gaspé avec une subvention de tout près de 2 millions de dollars, entre 1,5 puis 2 millions. Donc, il y a le processus de cession, on a une bonne enveloppe pour faire les travaux, etc. Tout s'aligne bien. Mais le temps que le gouvernement du Québec nous donne son OK sur la cession, ça a été des mois de délai. Donc, ça a retardé le processus, ça a retardé les travaux. Puis ce retard-là se cumule aux fameuses obtentions d'autorisation environnementale qui ont pris un délai de fou. Donc, on se ramasse à peu près 3 ans plus tard, le temps de passer les délais pour que le Québec nous autorise à travailler avec Ottawa, le temps de passer les délais environnementaux qui sont absolument incroyables au gouvernement du Québec, on se retrouve à peu près 3 ans plus tard avec entre l'annonce et la réalisation des travaux.
Oui, mais des fois avec une facture qui peut être plus élevée qu'au départ.
Ben effectivement, les coûts n'arrêtent pas d'augmenter dans ce temps-là. Bref, c'est lourd comme processus. Fait que d'un côté, le gouvernement du Québec dit « Oui, les municipalités, vous êtes des gouvernements de proximité, on vous reconnaît votre autonomie, mais de l'autre côté, vous n'avez pas le droit de travailler directement avec un autre gouvernement. » Donc, ce qu'on souhaite, c'est être capable de travailler de gouvernement à gouvernement avec Ottawa. Puis je vous dirais, si j'avais lâché du lest un peu, je vous dirais au moins qu'ils soient plus larges dans leur processus. Au lieu d'avoir un décret gouvernemental pour chaque subvention, pour chaque projet, ils pourraient faire au minimalement des décrets généraux. C'est-à-dire, je pense au fait d'adapter l'hôtel de ville pour les personnes handicapées, bien, ce programme-là, il y a plein de municipalités au Québec qui appliquent dessus. Là. Il s'agit d'avoir un décret générique qui vient dire, bien, pour tous les projets relatifs au fonds pour l'accessibilité, bien, les municipalités sont dédouanées et peuvent travailler directement avec Ottawa parce que ça accorde des priorités de Québec. Point. Ce serait bête, ce serait niaiseux, puis on s'ouvrait des mois et des mois à chaque fois.
Daniel Côté, merci, maire de Gaspé, merci pour cet entretien.
Merci beaucoup, Richard. À bientôt.